Bonjour. Alors, on est toujours dans l'Exode. On est passé par 9 plaies. Et si on fait le bilan, il semble que ce soit le statu quo. Après 9 secousses particulièrement conséquentes, les Égyptiens ont vécu chacune de ces plaies comme une catastrophe. À chaque fois, ils ont espéré que c'était la dernière. Ils s'en sont remis. Puis une autre est arrivée, inattendue, violente. Et ils ont fait le dos rond et ils en sont à la neuvième catastrophe. Les Hébreux aussi ont vécu ces plaies, mais sous un autre angle. Pour eux, c'était 9 échecs. Chaque fois, ils ont espéré que ça allait être la dernière, que le Pharaon allait les laisser partir. Et puis, le Pharaon, au contraire, s'est enfermé dans sa rigidité. Il s'est obstiné dans son entêtement. Et puis, le Seigneur, disait Job, plutôt un ami de Job, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Les Égyptiens sont là, dans leur entêtement, les Hébreux sont là, dans leur doute, et c'est comme si, finalement, il ne s'était rien passé. Or, pourtant, des événements importants avaient eu lieu. Et puis on se pose la question, mais comment se fait-il que Dieu laisse traîner en longueur des situations où il pourrait régler ça de façon expéditive? Et ça fait partie, tout simplement, de la vie. La vie a besoin de temps pour se manifester, pour s'écouler. Et puis, c'est un temps où, même si rien ne change, il y a un travail qui s'opère dans les pensées, dans les cœurs. C'est une pédagogie. Mais dans le cas présent, on est devant ce constat de l'apôtre Pierre qui disait « Pour les moqueurs, aujourd'hui, tout demeure comme dès le début de la création. Il semble que Dieu soit absent et que rien de ce qui est promis, de ce qui est attendu, ne se passe. » Et là, maintenant, on est au moment où tout va basculer, où tout va changer. C'est le chapitre 12 de l'Exode qu'on va lire. Il est un petit peu long, mais enfin, c'est un chapitre tellement important. Je suis gâté d'avoir ce chapitre à commenter aujourd'hui. Exode chapitre 12, on va lire les versets 1 à 42. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Là, jusque-là, le Seigneur parle à Moïse et à Aaron de l'événement qui est imminent, qui va se produire dans quelques temps, dans quelques semaines. Et maintenant, il parle toujours à Moïse et à Aaron, mais en parlant pas simplement de cet événement, mais de la célébration qui devra se faire année après année pour rappeler cet événement. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Fin d'une première étape. Et maintenant, c'est Moïse qui va trouver le peuple, les anciens du peuple, pour leur dire, leur communiquer ce que l'Éternel vient de lui révéler. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et ses deux poteaux de porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva vos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et maintenant, troisième phase, c'est le récit de l'événement lui-même, tel qu'il se produisit. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Comme je le disais, nous avons là un des textes essentiels de l'Ancien Testament et on peut dire de la Bible elle-même. La sortie d'Égypte, c'est un événement majeur pour la vie d'Israël. C'est l'acte qui marque sa naissance en tant que nation. Jusque-là, il y avait des patriarches, il y avait un peuple, mais un peuple qui n'avait pas d'institution, qui n'avait pas de cohésion, qui n'avait pas de destinée. Un peuple qui était noyé au milieu de l'Égypte. Et le Seigneur le déclare d'emblée, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. » Certes, le premier de l'an est en automne. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Mais il s'agit là, en quelque sorte, d'une année religieuse. Le Seigneur veut marquer de façon toute spéciale ce moment de l'année comme étant le début de l'année. À partir de maintenant, tout est nouveau. Vous entrez dans une nouvelle vie. Vous allez exister en tant que nation à part entière. Et dans la suite de l'histoire d'Israël, on voit que ce point-là, la Pâque, a été le point de repère pour toute la suite. Quand le roi Salomon a construit le temple, il est dit qu'il le construisit 480 ans après la sortie d'Égypte. Donc cette sortie d'Égypte, ça représente bien l'élément de référence dans l'histoire d'Israël. Et combien de fois les prophètes envoyés de l'Éternel ont encouragé le peuple en disant « Souvenez-vous de la sortie d'Égypte, souvenez-vous aussi de la traversée de la mer Rouge. » Ça, c'est pour dans quelques chapitres plus loin. « Souvenez-vous comme l'Éternel vous a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Combien le Seigneur avait manifesté son intérêt, sa bonté, sa fidélité, sa puissance envers un peuple qui se trouvait dans une situation apparemment sans issue. Et le Seigneur ajoute « Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Pharaon disait « Qui est l'Éternel ?» pour que je prenne garde à lui. Mais à ce peuple d'Israël, il a donné ce jour, cet événement, Et il le rappelle, c'est rappelé après, tout au long du Deutéronome des prophètes. « Et vous saurez que je suis l'Éternel, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur du cosmos et des éclipses, hein, mais il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Dieu proche de ses créatures. Il est le Dieu qui fait sortir d'Égypte. Il est le Dieu qui accompagne l'histoire des hommes et des peuples. Et ce chapitre, il est évidemment central pour la vie du peuple d'Israël, et d'ailleurs aujourd'hui encore, les Juifs, la fête la plus importante que célèbrent les Juifs, d'ailleurs pas toujours religieux, mais qui garde les traditions, c'est cette fête de Pâques, le repas dit du Seder, où on retrouve les éléments de... Alors il n'y a plus l'agneau sacrifié, parce que les Juifs ne sacrifient plus l'agneau, parce que plus tard il devait être sacrifié dans le temple, et le temple a été détruit en l'an 70, donc aujourd'hui ils se contentent de mettre un os de poulet ou bien d'agneau sur l'assiette, pour rappeler le sacrifice qu'ils n'osent plus faire. Mais il y a le reste, il y a les pains sans levain, il y a les herbes amères et d'autres éléments qui sont venus en complément au cours de l'histoire. Et c'est d'ailleurs ce repas du Seder que le Seigneur Jésus a célébré la veille de sa crucifixion. Ce chapitre, il est important pour l'histoire d'Israël, mais il est important parce qu'on y trouve un condensé de tout le message biblique. Ce message peut tenir en quelques points. Dieu exerce son jugement sur les pécheurs. On l'a vu la semaine passée avec Jean-Claude, c'était le chapitre précédent qui mettait l'accent particulier sur cet élément de jugement. Deuxième point, Dieu fait grâce à ceux qui se confient en lui et il fait grâce au travers d'un sacrifice. Troisièmement, Dieu libère son peuple. Il libère l'homme de ce qu'il a servi. Quatrièmement, Dieu, à partir de ces personnes qui ont mis leur confiance en Dieu, les rassemble en un peuple, accompagne ce peuple et donne une destinée à ce peuple. C'est le message de l'Ancien Testament, c'est le message du Nouveau Testament. Et ce chapitre, il participe à ce lien très étroit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Israélite était sauvé par le sacrifice de l'agneau pascal et il devait se souvenir de ce sacrifice en célébrant la fête de Pâques. Dans le Nouveau Testament, le croyant est sauvé par le sacrifice de Christ et il est invité à s'en souvenir régulièrement en célébrant le repas de la scène. Et d'ailleurs, le repas du Seder, le repas de la Pâque, le Seigneur l'a en quelque sorte transformé en la scène, le repas commémorant son sacrifice. Donc il y a le lien absolument formel, même à ce niveau-là, entre Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Mais maintenant, il y a quand même une question que j'aimerais aborder et qui peut nous chagriner. Pourquoi un sacrifice? Pourquoi tant de sang? C'est pas quelque chose avec lequel on se sent à l'aise. Pourquoi le sang de tous ces premiers-nés? Ils étaient pêcheurs, comme d'autres. Ils étaient sous l'influence du Pharaon. Pharaon était l'instigateur. Il y avait quelques personnes autour de lui qui participaient à cette mise en œuvre de l'asservissement. Puis il y avait toutes les familles simplement qui faisait partie d'Égypte. Pourquoi tant de sang de tous ces premiers-nés? Pourquoi le sang de tant d'agneaux? Imaginez la boucherie que ça représente dans tout le pays. Et puis, en ligne de mire, dans le Nouveau Testament, pourquoi le sang de Christ? Et je voudrais souligner un petit détail. Le sacrifice paraît encore plus extrême, plus difficile, quand on voit les conditions dans lesquelles il était fait. L'agneau qui était sacrifié, ce n'était pas simplement un acte qui se faisait à l'abattoir, il se faisait dans la maison. Et cet agneau, les Hébreux devaient s'en procurer un par maison, ou par groupe de maisons, si la maison était trop petite, la famille était trop petite. Mais cet agneau, ils devaient le prendre avec eux le 10e jour. Il était sacrifié le 14e jour. Pendant 4 jours, ils vivaient en compagnie de cet agneau. Les enfants avaient le temps de l'apprivoiser. La famille avait le temps de s'identifier avec cet agneau. Et il y a une différence entre sacrifier un agneau à l'abattoir, un agneau anonyme, et puis un agneau avec lequel on a partagé, on a vécu. Et le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Ce n'était pas un sacrifice froid, neutre, ce n'était pas un acte boucherie, ce n'était pas un sacrifice impersonnel, sans émotion. Quand on voit les plaies précédentes, les 9 plaies, en tout cas, à partir de la 4e, il est dit que Dieu a fait une différence entre les Égyptiens et les Hébreux qui habitaient dans la région particulière de Gozen. Il a fait une différence. Et les plaies, par exemple, la grêle, la mortalité, les ulcères, il est dit que ces plaies n'atteignirent pas les Israélites. Dieu les avait réservées pour les Égyptiens. Alors, on pourrait se dire, ça aurait été, entre guillemets, plus propre, que le Seigneur fasse la même chose pour la 10e plaie. Vous êtes dans le pays de Gozen, vous serez épargnés de la mort des premiers-nés, tout simplement par un décret souverain de ma part, comme il l'avait fait pour les autres plaies. Or, pour cette plaie, qui était la plaie ultime, la plus grave, la plus lourde, celle qui conduisait à la mort, l'Hébreu ne pouvait pas se contenter de dire « Bon, pas de souci pour moi, je fais partie d'une catégorie de personnes qui ne sera pas atteint, parce que je vis, j'appartiens à un peuple particulier qui porte le nom de Dieu, parce que j'habite une région particulière. » Ce jugement de la mort pouvait atteindre aussi les Hébreux. Mais ils en ont été épargnés, non pas parce qu'ils appartenaient à un peuple, non pas parce qu'ils ils habitaient une certaine région. Et nous ne sommes pas à nous sauver parce que nous appartenons à un groupe de gens bien, que nous avons de bonnes relations, que nous sommes dans une bonne église, une église qu'on estime vivante. Ce n'est pas cela qui donne le salut. Ce n'est pas ça qui fera échapper à la mort. C'est le fait de prendre pour soi personnellement, par un acte individuel, personnel, volontaire, prendre le sacrifice pour soi. Et ça n'est qu'après avoir sauvé les gens par ce sacrifice reçu individuellement que un peuple va se constituer, va se rassembler, va sortir d'Égypte sous la conduite de Moïse et du Seigneur lui-même. La prédication de la croix, disait l'apôtre Paul, est une folie pour ceux qui périssent. Ça l'était du temps de Paul, et je dirais que ça l'est encore d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, infliger la mort, c'est insupportable à l'esprit de notre temps. Même la mort des animaux qui sont destinées à nous nourrir, aujourd'hui, vous le savez, est contestée. L'idée de la mort est devenue, du sang est devenue insupportable. La peine de mort appartient au régime barbare ou à la pratique d'un autre temps. Et pourtant, on l'observe tous les jours, il suffit de s'informer, la mort règne partout. Autant que jamais, plus que jamais, non seulement dans les innombrables conflits ou le terrorisme, mais dans ces fusillades aveugles qu'on voit un peu partout. Dans la conduite irresponsable sur la route, il y a aussi les morts qui proviennent d'événements qu'on n'a pas voulu, mais dont on est quand même responsable. Les violences conjugales, les avortements. Le monde ne peut s'empêcher de voir couler le sang et de faire couler le sang. L'homme y est responsable. Malgré toute sa bonne volonté, malgré le choix délibéré d'être pacifique, le sang coule et les hommes en sont souvent la cause première. Le sang et la mort sont partout. Et la Bible dit que la mort, c'est le salaire du péché, c'est l'aboutissement inéluctable du mal qui habite dans le cœur de tout homme. Alors pourquoi donc un sacrifice ? Tout simplement parce que le péché de l'homme n'est pas anodin. Le péché compromet la vie elle-même, le péché porteur de mort. Il fallait un sacrifice pour dire jusqu'où va le péché de l'homme. Et la mort de Christ sur la croix est l'aboutissement ultime de l'œuvre du péché dans le cœur de l'homme, qui va jusqu'à crucifier le Fils de Dieu envoyé parmi les hommes. Il en est ainsi parce que Dieu fait son œuvre en profondeur dans le cœur de l'homme pour mettre en évidence le péché, pour le mettre en lumière. C'est la marque de sa justice, de sa sainteté. Dieu est un Dieu exigeant. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et on se souvient, je crois que c'est Ézéchiel qui parlait des faux prophètes et des sacrificateurs dévoyés, et il disait, ces gens-là pensent à la légère la plaie de mon peuple. Ces prophètes, ces sacrificateurs, disaient de belles paroles sans mettre en évidence le péché du peuple pour laisser entendre que finalement tout va bien et puis que tout peut rester en l'état. Accepter le sacrifice, c'est reconnaître que mon péché est grave et qu'il conduit à la mort. Mais pour celui qui s'approche de Dieu, qui veut recevoir son pardon, sa grâce, sa protection, alors ce Dieu exigeant que l'on connaît est aussi le Dieu indulgent qui passe, qui voit le sang du sacrifice et qui passe au-dessus de notre péché. Il passe, il voit le sang sur les maisons et il passe au-dessus de la maison. C'est le sens du mot Pâques. Pâques, ça veut dire passer au-dessus. Et le Seigneur peut passer, s'il dévoile la profondeur et la gravité de notre péché, en même temps, il fait l'œuvre extraordinaire de passer au-dessus s'il voit le sang témoin du jugement qui doit suivre nécessairement le péché. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et si le sacrifice de Christ démontre jusqu'où est allé le péché de l'homme, il montre en même temps jusqu'où est allé l'amour de Dieu. Le sacrifice, c'est ce contraste extraordinaire entre la mort, conséquence inéluctable du péché, et puis l'amour de Dieu qui est en mesure de passer au-delà en s'exprimant au travers du sacrifice de Christ. Il est dit dans 1 Pierre 1, verset 18-19, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voilà le sens du sacrifice. Et j'aimerais encore dire une chose à ce sujet. Vous serez d'accord avec moi pour penser et dire que la vie, c'est notre bien le plus précieux. Et pourtant, si on y réfléchit, il y a plus important encore que la vie. C'est le sens de la vie. C'est encore plus précieux que la vie, le sens de la vie. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont plus de sens à leur vie, ben, il leur arrive tout simplement de renoncer à la vie. Il n'y a plus de sens. Donc, finalement, si j'ai plus de sens, la vie n'a plus de raison. N'a plus de raison d'être. Il y a plus important que la vie, c'est le sens de la vie. Et là, je l'ai dit en négatif, en disant ceux qui n'ont plus de sens à leur vie et qui y renoncent. Mais dans l'autre sens, il y a aussi des valeurs, des causes pour lesquelles, auxquelles on s'identifie tellement qu'on est prêt à mettre sa vie en jeu pour défendre cette cause. Donc le sens de la vie, mais dans ce cas-là aussi, le sens de la vie prime sur la vie elle-même. Et le Seigneur a dit, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui veut garder sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui la donne, la retrouvera. Il la donne pour l'amour de Dieu, pour l'amour des autres. Celui-là atteint vraiment le sommet de la valeur de sa vie. Alors, le Pharaon, cette fois-ci, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. On est obligé de trier. On pourrait parler de l'agneau, mais l'agneau a été traité lors de la fête de Pâques dernière, où on a vu l'agneau dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, je ne vais pas insister davantage et focaliser encore sur quelques autres aspects. Le Pharaon est obligé de lâcher sa prise. Il doit laisser partir le peuple. Le peuple peut maintenant envisager sa destinée librement. Dans Ésaïe, on lit ceci, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, et nous en faisons tous l'expérience d'une manière ou d'une autre. Il nous arrive à tous de nous sentir asservis par des circonstances, par un mauvais trait de caractère, par une addiction, par une relation destructrice, par une habitude malsaine. Ce sont aussi toutes sortes d'asservissements qui nous restreignent, qui nous limitent, qui nous font souffrir, comme ce peuple en Égypte. Face à toutes ces formes d'asservissement, vous avez lutté, vous avez espéré, vous avez patienté, Et peut-être que jusqu'à ce jour, vous n'avez vu aucun changement. C'est le statu quo, comme les Israélites après 9 plaies. Ce chapitre de ce matin, il est là pour nous dire « Ne baisse jamais les bras. Le Seigneur ne veut pas te laisser dans cet état-là. » Le pharaon a dû lâcher et le peuple s'est constitué et ça a été un événement irréversible. Toutefois, j'aimerais quand même souligner que si le peuple d'Israël, ainsi formé, ne doit plus allégeance à ce pharaon, le pharaon garde un pouvoir de nuisance. On le verra dans quelques temps lors de la traversée de la mer Rouge. Et puis un peu plus tard, on voit que l'Égypte n'est jamais bien loin. Quand Moïse est sur la montagne et oublie de redescendre, si je puis dire, le peuple d'Israël s'impatiente et il se fait un veau en métal fondu à l'image des dieux qu'il avait connus en Égypte. Et puis, quelque temps après, ou avant, la nourriture commençait à devenir difficile dans le désert. Finalement, ils ont pensé à la nourriture d'Égypte, qui était nettement meilleure que ce qu'ils avaient là dans le désert. Et puis, à d'autres moments, encore plus tard dans leur histoire, quand ils ont été menacés par le roi d'Assyrie, ils se sont tournés vers l'Égypte pour recevoir du soutien. Et Jérémie a dû lutter contre cette volonté d'Israël de demander à l'Égypte sa protection. Donc on le voit, l'Égypte n'est jamais bien loin. Et pour nous, le Seigneur a fait une œuvre de libération. Nous sommes libérés du pouvoir du péché. Mais le péché garde son pouvoir de nuisance, il n'est jamais bien loin. Et cela doit nous garder dans l'humilité, dans la vigilance. Encore une chose, ce repas, il se prenait debout. Enfin, j'imagine, parce qu'il dit, il devait être en tenue de départ, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Et il devait prendre ce repas à la hâte. J'y vois une belle image de ce qu'est la conversion pour nous. Le Seigneur nous sauve, nous met à l'abri du péché, mais pas pour qu'on s'installe à la maison, dans le fauteuil, tranquille, la question est réglée, et maintenant on peut passer à autre chose, à ce qui me titille, ce qui m'intéresse, ce qui me motive. Le peuple d'Israël a été sauvé, a été épargné de la mort, mais il devait être debout, prêt à partir. La conversion, c'est pas simplement être en sécurité quant à l'éternité, mais c'est naître de nouveau pour vivre une vie nouvelle, pour se mettre en route, sur une route nouvelle, avec de nouvelles motivations, de nouveaux objectifs, avec un nouvel usage de notre temps, de nos capacités, de nos forces, de nos biens, de nos relations. C'est tout ça, le départ dans la vie chrétienne. C'est une vie qui change en profondeur. Une vie qui trouve son sens profond et sa satisfaction dans une relation de chaque instant avec notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Une vie qui veut porter des fruits dignes de l'Esprit que le Seigneur a fait habiter dans nos cœurs. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédicité. Et vous connaissez la suite. C'est une vie qui rompt avec les anciennes habitudes. Et Il y a un élément que l'on trouve encore aujourd'hui dans la fête de Pâques, ce sont les pains sans levain. Eh bien, ces pains sans levain représentent une belle image de cette rupture avec le péché passé dans nos vies. Le levain, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu de vieille pâte qu'on laisse fermenter et qu'on va mettre dans la nouvelle pâte pour la faire lever. Puis avec cette nouvelle pâte, on en prélèvera un petit morceau qui servira à fermenter la pâte suivante, etc. C'est une sorte de continuité de ce principe de fermentation. Et la fête des pains sans levain est là pour dire il faut qu'il y ait une rupture avec ce qui a fait ma vie, mes pensées, mes motivations, mes centres d'intérêt jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul disait « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Faites disparaître le vieux levain, tout ce qui est du passé douloureux et qu'on a si facilement tendance à ressasser. » Jean-Claude nous en parlait la semaine passée. Ces choses qui sont du passé et dont on garde quand même un petit morceau pour l'incorporer à notre vie de chrétien et qui crée du dégât. Ce levain, c'est aussi ses habitudes, ce style de vie, cette vaine manière héritée de nos pères, comme disait l'apôtre Pierre. Cette manière de vivre héritée de nos goûts, de notre éducation, de nos gènes. La fête des pains sans levain pendant 7 jours, après le 14e jour de la Pâque. Et puis, autre détail, les herbes amères. Quelques temps auparavant, dans le début de l'Exode, on voit que le Pharaon, quand il a été sollicité par Moïse pour laisser aller son peuple, n'a fait qu'accroître la charge. Et il a dit que le Pharaon leur rendit la vie amère. Les herbes amères, elles rappellent au peuple combien la vie d'esclave était difficile, pénible, astreignante. Vous savez, lorsque on sort d'un état difficile, lorsque les conditions changent, on est fait de telle manière que on oublie. On oublie ce qui nous a été difficile, et puis nos souvenirs s'embellissent. J'en parlais juste avant, il n'a pas fallu longtemps aux Israélites pour dire « Mais en Égypte, on avait de la nourriture en abondance, on avait des légumes de toutes sortes, c'était varié. » Il n'a pas fallu longtemps pour que l'image qu'ils avaient de l'Égypte se transforme dans leur pensée. Finalement, si on y retournait, ils sont allés jusque-là, ils avaient chaque année dans la fête de Pâques, à se souvenir de l'amertume de la vie du passé, de la vie de péché, de la vie de servitude, pour être gardés, de laisser leur pensée déformer la réalité. Et nous, on s'est tourné vers le Seigneur et on a compris combien le monde, sa façon de penser, ses principes, la mentalité qui l'habite, était nocive. Combien il y a d'amertume dans ce monde. Puis les années passent. Les circonstances font qu'on adoucit notre jugement. il y a quand même de bonnes choses, ce qui n'est pas faux. Les légumes en Égypte, ils étaient bons, ce n'était pas faux. Mais notre point de vue change. Et finalement, notre résistance face au déclin moral de la société, il s'adoucit, tout simplement parce que dans notre environnement, on voit des situations bancales prendre racine parmi nos amis, dans nos familles, et puis notre jugement moral s'affadit. Et puis notre jugement sur le monde matérialiste, profiteur, hédoniste, là aussi, il y a des bonnes choses dans la vie, et puis c'est ce qui va prendre peut-être le dessus, et finalement mettre dans nos cœurs les pensées de retourner en arrière. Que le Seigneur nous accorde d'être, de vivre, d'avoir des pensées dans la lumière et dans la vérité, et de savoir reconnaître l'amertume là où elle est, et de ne pas embellir nos jugements, nos points de vue, nos évaluations quant au courant de pensée d'aujourd'hui, au style de vie à la mode. Et je termine avec ce fait que cet événement unique, les prophètes l'ont utilisé comme référence au fur et à mesure de l'histoire pour rappeler au peuple ce qu'il était, d'où il venait, ce que Dieu a été pour lui. Et ce souvenir est tellement important pour bien diriger notre barque aujourd'hui et demain. Le passé est utile et on le voit, le peuple d'Israël a connu des périodes de grande médiocrité spirituelle, pour ne pas dire d'éloignement. On se souvient du prophète Élie qui se sentait le seul à être resté fidèle au milieu de tout le peuple d'Israël. Mais lorsque des réveils se sont manifestés, il y en a eu deux réveils, en tout cas flagrants, du temps, l'un d'Ézéchias, du roi Ézéchias, un autre du temps de Josias. Dans les deux cas, ce réveil est allé de pair avec un renouveau de ferveur dans la célébration de la Pâque, la célébration de ses origines, de peuple constitué par le Seigneur, par le sacrifice de l'agneau, par la traversée de la mer Rouge. Et ce réveil, ce retour aux sources, c'était un rafraîchissement pour ceux qui sont mariés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça fait du bien de se souvenir de la passion qui nous animait au départ, au début. Et ça contribue à maintenir l'amour, le lien resserré aujourd'hui encore, quand on pense avec reconnaissance ce qu'ont été les débuts. Considérant Israël, c'était la même chose. Considérant la foi, c'est la même chose. Il nous est bon de nous souvenir de nos débuts avec le Seigneur, de la vitalité, de l'empressement, du premier amour qui était dans nos cœurs pour alimenter notre vie aujourd'hui et pour nous consolider dans la foi et dans la persévérance. L'Israélite dans l'Ancien Testament, il était sauvé par le sacrifice. Il était mis Il était sauvé du jugement, il était délivré du péché, il était agrégé au peuple d'Israël en vue d'une destinée. Et tout cela, le Seigneur le fait pour nous aujourd'hui. Par le sacrifice de Christ, nous sommes sauvés du jugement, nous sommes libérés du pouvoir du péché, nous sommes ajoutés au peuple de Dieu et nous avons une destinée éternelle qui nous est réservée. Tout cela se tient dans l'origine de notre vie, dans cette nouvelle naissance, par le sacrifice de Christ. Et nous sommes, le Seigneur nous appelle à y revenir, à y regarder comme tout à nouveau. Le repas de la scène est destiné à cela, à regarder, à porter nos regards régulièrement vers ce que le Seigneur a accompli pour nous en son temps et qui doit être vitalisé jour après jour, semaine après semaine dans nos vies. Ben que le Seigneur puisse le faire dans nos vies et que ce chapitre de l'histoire ancienne, on puisse le faire vivre aujourd'hui dans chacune de nos vies. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui auras le dernier mot sur la mort. Ton sacrifice à la croix est une victoire sur la mort, sur le péché, sur le pouvoir du péché, sur le non-sens de notre vie. Et nous voulons porter nos regards sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous, au jour où nous sommes tournés vers toi, et que nous voulons ne pas perdre de vue, garder dans notre cœur, célébrer jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur pour ton amour et nous te prions de mettre dans nos cœurs un amour fervent pour toi en retour. Amen.